Bonjour, soyez les bienvenus à l'émission Le quotidien des quotidiens. Hélène Denis qui vous accompagne avec plaisir en cette semaine qui s'annonce belle. Il fait très chaud, il y aura des orages et puis l'humidité va être chassée. Tant mieux, en tout cas, si vous n'aimez pas l'humidité, vous allez être heureux d'entendre cela. Et je salue là-dessus Jean-Sébastien Laliberté.
Bonjour Hélène.
Avez-vous bien profité de votre week-end?
Oh, oui.
Oui?
Oui.
Qu'est-ce que vous avez fait en nous dire à la radio?
De la piscine.
Ah, oh, chanceux!
Quand on connaît des gens qui ont une piscine...
Ah oui, vous avez inauguré une piscine, je ne sais pas, là, mais vous êtes baigné pour la première fois cet été?
Non, ce n'était pas la première fois.
Même si l'été n'est pas arrivé encore.
Ce n'était pas la première fois, mais avec le soleil qu'il faisait, c'était très, très agréable.
Ah oui, j'en suis sûre. Alors, mon cher, en ce 18, je sais que c'est la fête de Paul McCartney aujourd'hui, mais je vous laisse faire le reste.
Merci. En ce 18 juin, plusieurs événements qui ont été marquants. 1784, l'Angleterre divise la Nouvelle-Écosse et le territoire au nord devient donc le Nouveau-Brunswick. 1812, les États-Unis déclarent la guerre à l'Angleterre. On parle donc de la guerre d'indépendance. 1815, l'armée napoléonienne est vaincue à Waterloo en Belgique par les armées prussiennes et anglaises. 1846, un premier service de télégraphe entre en fonction et on parle d'un service qui relie les villes de Toronto, Hamilton et Niagara Falls. 1940, toujours un 18 juin 1940, faut-il le rappeler, Seconde Guerre mondiale, de Londres à la radio, Charles de Gaulle lance un appel à la résistance des Français contre les occupants allemands. 1948, lancement du disque de longue durée, communément long play, où on pourrait parler également de 33 tours, par la compagnie Columbia Broadcasting System. Hélène, est-ce que vous voulez vous risquer à deviner quelle était la première œuvre qui a été endisquée sur un 33 tours?
En quelle année?
1948.
Bon. Est-ce que c'est une chanson de rock'n'roll ou de jazz?
On est dans le classique, en fait.
Oh, dans le classique.
Et ce n'est, petit indice, ni Bach, ni Beethoven, ni Mozart.
Non. Donnez-moi trois choix.
Je vais
comme les examens de fin d'année.
J'aurais de la difficulté à en trouver deux autres, vu que le temps nous est compté dans cette chronique. Alors, je vais tout de suite avec la réponse. Le concerto en mi mineur de Mendelssohn.
Ah, ben oui, je l'avais sur le bout de la langue.
Interprété par Nathan Milstein au violon, ainsi que par l'Orchestre philharmonique de New York. 1953, la Corée du Sud libère 26 000 prisonniers nord-coréens non communistes. 1972, à Londres, tragédie aérienne, un avion de la British Airways explose peu après son décollage. On parle de 118 victimes. 1983, à bord de la navette Challenger, première américaine à aller dans l'espace, du nom de Sally Ride. 18 juin 2000, à Alger, après 25 mois de guerre, l'Éthiopie et l'Érythrée signent un accord de paix. 18 juin 2003, événement qui fait quelque peu sourciller, Silvio Berlusconi, chef du gouvernement italien, fait voter une loi qui lui apporte l'immunité jusqu'à la fin de son mandat. Alors, le leader ne peut pas avoir tort. Il était notamment poursuivi pour des faits de corruption de magistrats lors d'opérations industrielles datant des années 80. En 2009, le Sénat américain adopte à l'unanimité une résolution présentant les excuses de la nation aux victimes de l'esclavage et de la ségrégation raciale. En 2013, ici même à Montréal, au lendemain de son arrestation par l'UPAC, le maire par intérim de Montréal, Michael Applebaum, remet sa démission tout en clamant son innocence. Et 18 juin 2015, c'était donc il y a 3 ans, un suprémaciste blanc tue par balle 9 personnes dans une église méthodiste noire à Charleston, en Caroline du Sud. Anniversaire en ce 18 juin de l'écrivain espagnol Miguel de Cervantes, l'auteur de Don Quichotte. Et comme Hélène, vous nous l'avez fait remarquer, Paul McCartney, 76 ans aujourd'hui. Et décès 2007, 18 juin, de l'auteur-compositeur-interprète québécois George Thurston, dit Boule Noire.
Oui, disparu trop tôt, à l'âge de 55 ans. Merci Jean-Sébastien.
Avec grand plaisir.
À la une de la Presse Plus aujourd'hui, alimentation, viande cultivée, les géants de l'industrie ont faim. Viande propre, entre guillemets, pour les uns, Frecken Meat pour les autres, qu'on soit pour ou contre le hamburger cultivé et plusieurs autres aliments pourraient passer du labo à votre assiette d'ici 1 à 3 ans. Êtes-vous prêt? Exclusif, Montréal se prépare au pire, catastrophe, accident, attentat, nouveau plan de match. La presse au Vermont facture d'électricité 0 $. Une révolution est en cours de l'autre côté de la frontière. Et la chronique d'Hugo Dumas, toc, 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 c'est Phil Roy. L'humoriste aura son talk show itinérant à la chaîne V. C'est un dossier de Marie-Claude Malbeuf dans la presse. Lorsque le téléphone a sonné l'an dernier par une radieuse journée d'été, l'aquarium de San Francisco avait une grande nouvelle pour Michael Seldon. Un bar rayé venait tout juste d'être trouvé mort. Plus vite je pouvais le récupérer, mieux c'était. Mais il y a toujours des bouchons à San Francisco, précise le jeune biochimiste. Après avoir pris possession de sa curieuse prise, le jeune Californien l'a transportée dans un bac de glace pour laisser ensuite son associé la stériliser et en prélever un morceau. L'objectif des deux hommes, non pas déguster leur poisson mort, mais plutôt rendre ses cellules immortelles afin qu'elles se multiplient et produisent potentiellement autant de chair qu'un élevage de milliers de vrais poissons. Mais une chair spéciale, sans queue ni tête, sans arêtes ni nageoires, d'où le nom de leur start-up, Finless Foods. C'est le dévoilement mondial du premier hamburger in vitro il y a 5 ans qui a ouvert le bal. Son créateur, Mark Post, avait calculé qu'un échantillon de muscles de la taille d'un pois chiche pourrait fournir autant de viande que 400 000 vaches. Croquettes de carpe ou de poulet, foie gras, boulettes de viande hachée, canard, chorizo, de la Silicon Valley jusqu'au Japon en passant par Israël, une vingtaine de start-up se sont lancées les unes après les autres faisant goûter leurs prototypes à des cobayes en 2016 et en 2017. En Californie, l'entreprise Just for All a déjà amassé 300 millions et son PDG a promis de commercialiser un produit de volaille cultivé. On pense qu'il s'agira de foie gras dès la fin de l'année, bien que plusieurs observateurs soient sceptiques. D'après l'ONU, les 10 milliards d'humains qui peupleront la planète en 2050 voudront en manger deux fois plus, alors que le bétail pollue déjà des quantités phénoménales de terre et d'eau et produit plus de gaz à effet de serre que tous les moyens de transport réunis. Les gens sont obligés de manipuler la viande comme s'il s'agissait de déchets toxiques. Ils savent que sa production est néfaste pour l'environnement et malgré tout, ils en mangent, résume Matt Ball, porte-parole du Good Food Institute, fondé en 2016 pour aider les fabricants de viande sans animal à lancer leurs produits sur le marché. Pour l'instant, personne n'a encore découvert la méthode ou inventé de bioréacteurs assez sophistiqués, pour fabriquer de la viande cultivée à grande échelle. En 2013, produire le tout premier hamburger avait coûté 350 000 US. En 2017, la première boulette a coûté 1 200 $ et chaque livre de poisson coûte aujourd'hui 6 000 $ à Finless Foods. Les Nord-Américains seront-ils au rendez-vous? Les aliments font partie de nous, alors on veut savoir d'où ça vient. Si le consommateur a le moindre doute, il se tournera ailleurs. Il faudra aussi convaincre les autorités que leurs produits sont inoffensifs. Le groupe écologiste Friends of the Earth dénonce déjà la production de vanille ou de protéines laitières au moyen de levures génétiquement modifiées, qu'il qualifie de modification génétique extrême, trop peu naturelle. Montréal se prépare au pire, c'est une exclusivité, c'est une la signature de ce texte est celle de Pierre-André Normandin. Résilience, en 2017, les crues printanières ont montré les limites de la préparation de Montréal par rapport aux inondations. Voilà, c'est loin d'être la seule menace à planer sur la métropole. Un attentat terroriste pourrait paralyser la ville ou une simple rupture de conduite d'eau pourrait priver d'eau la majorité de l'île. Pour faire face à ces risques, la métropole a entrepris d'élaborer une stratégie montréalaise pour une ville résiliente qui sera rendue publique aujourd'hui. Cet exercice a été réalisé dans la foulée de l'adhésion de Montréal en décembre 2014 au réseau des 100 villes résilientes, mise en place par la Fondation Rockefeller. La stratégie prévoit une série d'actions au cours des 5 prochaines années afin de mieux préparer la métropole. L'une des priorités sera de faire un portrait complet des risques pouvant toucher Montréal. Chaque menace fera l'objet d'une analyse approfondie afin d'en anticiper les conséquences. À la suite de cet exercice, le Centre de la sécurité civile compte revoir l'ensemble des plans d'intervention afin de s'assurer que les services d'urgence sont fin prêts. En parallèle, le Bureau de la résilience mettra en place des programmes pour tenter de réduire la vulnérabilité de Montréal face aux dangers. Le rapport souligne le risque d'accidents industriels alors que le transport et le stockage de matières dangereuses représentent une source de préoccupation grandissante pour les autorités de la ville. Montréal souligne ne pas être à l'abri des catastrophes naturelles comme l'ont démontré la crise du verglas en 1998 et la crue printanière de 2017. Le plan prévoit aussi améliorer la surveillance des menaces pesant sur Montréal. La métropole dispose déjà de plusieurs vigies, mais le Bureau de la résilience note qu'elles sont éparpillées. Élection provinciale 2018, Lionel Carman, neurologue à l'hôpital Sainte-Justine de Montréal, sera le candidat de la CAQ dans la circonscription longueuilloise de Taillon. J'ai dit à François, si tu vas au bâton pour les enfants, j'embarque. Alors, aujourd'hui, me voici. Celui qui se disait en réflexion depuis plusieurs mois est maintenant prêt à se lancer officiellement dans la course. Lionel Carman, neurologue à l'hôpital Sainte-Justine de Montréal, portera donc les couleurs de la CAQ aux prochaines élections. Lionel Carman est une figure bien connue du milieu médical pédiatrique en tant que neurologue et spécialiste du traitement de l'épilepsie chez les enfants. Les parents qui ont des troubles de dysphasie, d'autisme, de troubles d'attention, etc. savent que les interventions avant l'âge de 6 ans sont plus efficaces qu'après, a dit le chef de la CAQ, François Legault, en réitérant sa promesse d'instaurer la maternelle à 4 ans pour tous les enfants, mais également un meilleur dépistage des troubles du comportement. On ne pouvait pas rêver d'une meilleure personne que le docteur Carman pour s'en occuper. Un 10e grand défi Pierre Lavoie couronné de succès. Les 215 équipes participantes sont parties du Saguenay-Lac-Saint-Jean jeudi dernier et ont parcouru les 1000 km à relais durant 60 heures d'affilée. La 12e phase du défi, d'une distance de 81 km, reliait Valcourt à Mont-Saint-Hilaire. Les participants ont ensuite entrepris une ultime étape de 40 km jusqu'au stade olympique où était tracée la ligne d'arrivée. Les cyclistes ont commencé à arriver aux alentours de 15 heures, donc hier après-midi, accueillis par une foule réunie dans l'enceinte du stade olympique. Dans une ambiance de fête, les participants de la 10e édition du Grand Défi ont pu célébrer la fin de ce marathon cycliste. L'objectif premier de l'épreuve est de transformer la culture en matière de santé préventive au Québec en amenant les gens à adopter de saines habitudes de vie. Pour ce faire, en 10 années, les dons, commandites et droits d'inscription aux épreuves ont permis à l'organisme de remettre 21 017 553 $ à des écoles et aux causes visées par l'initiative. Montréal aura sa station FinTech. La création d'un pôle d'excellence au centre-ville sera annoncée ce matin. Après plusieurs années de discussions avec des intervenants du milieu financier, le Québec aura finalement un lieu physique officiel de développement pour entreprises spécialisées en technologie financière ou FinTech. Il sera situé au cœur du centre-ville de Montréal et l'endroit aura sa marque de commerce distinctive afin de créer un sentiment d'appartenance et assurer une reconnaissance instantanée. Le Hub, H-U-B, sera baptisé Station FinTech. Les détails entourant la création de cette station seront précisés ce matin à l'occasion d'un événement organisé à la Place Ville-Marie, auquel le ministre québécois des Finances, Carlos Letao, sera présent. Un investissement de 9 millions de dollars sur 5 ans avait été annoncé en mars dernier par Québec pour appuyer la mise sur pied d'un Hub FinTech, un projet de l'organisme Finance Montréal dont la mission est notamment de faire de la métropole un pôle financier de calibre mondial. Up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong?
La formation britannique Les Beatles, et cette pièce Eleanor Rigby, tirée de leur album de 1966 Revolver. On écoutait ça en l'honneur de l'anniversaire de Sir Paul McCartney, qui a 76 ans aujourd'hui.
À la une du Devoir, des salutations pour finir les Franco. Pas de spectacle anniversaire rétrospectif pour la clôture des Franco, 30e du nom, dimanche soir sur la place des festivals. On a préféré célébrer les chansons et ceux qui les font, tonnerre de rock pour se rappeler Jacques Higelin en compagnie de Yann Perrault et de Catherine Major notamment. C'est la photo qui fait la une du Devoir. Voix de femme pour le répertoire de Luc Plamondon et ses compositeurs. Le compte-rendu de Sylvain Cormier sur les plateformes numériques du Devoir. Parrainage privé, la réforme proposée ne fait pas l'unanimité. Musique, histoire de cœur et de cash, Beyoncé et Jay-Z dévoilent l'album Everything is Love. On a une photo de Beyoncé et Jay-Z au musée du Louvre. Violence sexuelle à l'école, le personnel des services de garde laissé en plan. Grâce à Instagram, les tatoueurs s'exposent et recrutent des clients à travers le monde. À l'approche de la levée du moratoire du programme de parrainage privé qui faisait l'objet d'un examen, divers organismes d'aide aux réfugiés et avocats critiquent sa réforme et exigent du gouvernement qu'il revoie son projet de règlement avant de l'adopter. Selon eux, celui-ci impose aux organisations de parrainage des conditions et un encadrement trop contraignants qui desserviront les éventuels demandeurs d'asile et élimineront la latitude nécessaire pour répondre aux crises. Le président de Pour les réfugiés, version française, une organisation sans but lucratif qui défend les demandeurs d'asile politique croit que les nouvelles règles ne servent qu'à mettre des bâtons dans les roues des groupes d'organismes de parrainage comme le sien. On peut comprendre le ministère qui doit composer avec une demande sans précédent de réfugiés, dit Marc-André Séguin, en rappelant qu'il n'y a jamais eu autant de réfugiés dans le monde depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais venir mettre des bâtons dans les roues des organismes capables de répondre à la crise n'est certainement pas la bonne façon d'y faire. Si d'autres organisations, notamment la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes, TCRI, plaidaient en faveur d'un meilleur encadrement, l'Association québécoise des avocats et avocates en droit de l'immigration estime néanmoins que le ministère de l'Immigration, de la diversité et de l'inclusion est allé trop loin et a rendu le processus d'intégration de ces gens plus compliqué. Appel à une meilleure formation du personnel des services de garde. Les membres du personnel des services de garde dans les écoles ne sont pas impliqués de façon systématique dans les plans de lutte contre l'intimidation et la violence. C'est le constat de l'Association des services de garde en milieu scolaire qui réclame de la formation et des outils pour ses membres. C'est à géométrie variable encore aujourd'hui, déplore Diane Miron, la présidente de l'association dans certains milieux. Le service de garde est impliqué et fait partie de toutes les étapes du plan d'action. Mais dans d'autres milieux, le personnel de service de garde est mis de côté et n'est pas invité dans la démarche. Elle rappelle que la violence entre enfants ne survient pas uniquement dans les classes et les corridors, et que les périodes du dîner et de la récréation supervisées par les services de garde sont des moments où les interactions sont grandes entre les enfants et donc propices à des situations conflictuelles. La loi visant à prévenir et à combattre l'intimidation à l'école, adoptée à Québec en 2012, force toutes les écoles à se doter d'un plan de lutte contre l'intimidation et la violence. On y précise que tout membre du personnel d'une école doit collaborer à la mise en œuvre du plan de lutte et veiller à ce qu'aucun élève de l'école à laquelle il est affecté ne soit victime d'intimidation ou de violence. Comment expliquer alors que le personnel des services de garde ne soit pas impliqué systématiquement dans les plans de lutte? C'est la question que se pose l'association qui parle d'un combat perpétuel pour faire reconnaître la contribution du personnel des services de garde. La Commission scolaire de Montréal assure au devoir que les services de garde sont impliqués dans le plan de lutte contre l'intimidation et la violence, ainsi que tout le personnel et que tout le personnel a reçu la formation nécessaire. De nombreux parents ont pu pousser un soupir de soulagement dimanche en fin de matinée alors que la grève générale illimitée déclenchée le 6 juin dernier dans 57 centres de la petite enfance, CPE de Montréal et Laval, a été levée. Les conciliateurs du ministère du Travail ont présenté au syndicat des travailleuses des CPE affiliées à la CSN et à l'Association patronale des CPE une recommandation de règlement de leur convention collective. À la demande de ces derniers, son contenu doit toutefois demeurer confidentiel pour les prochains jours. Les parties se sont engagées à la présenter favorablement à leurs mandants respectifs. Elle sera ainsi présentée à l'ensemble des travailleuses visées lors d'une assemblée générale extraordinaire la fin de semaine prochaine. D'ici là, la grève qui a touché plus de 3 000 enfants est tout de même levée et le retour au travail est prévu dès lundi matin. Une lettre donc publiée dans la page A6 éditoriale. Christian Rioux affirme dans les pages du Devoir que la solution au drame des migrants qui risquent leur vie en tentant de rejoindre l'Europe est, tant pour les migrants que pour l'Europe, le rétablissement des frontières et leur respect le plus strict. La réponse humanitaire ne permettra jamais de régler le problème, dit-il, puisque en rendant les traversées plus sécuritaires, elle augmentera forcément le nombre de migrants prêts à tenter leur chance. Cette façon d'aborder le problème occulte complètement la question de fond. Pourquoi un si grand nombre de personnes choisissent-elles de quitter leur demeure, leurs amis, leur famille, leur patrie, et mettent-elles leur vie et celle de leurs enfants en danger pour tenter de rejoindre les rives de l'Europe? L'ampleur de ces sacrifices est à la mesure de l'ampleur des souffrances de ceux et celles qui s'y prêtent. On parle ici de désespoir. M. Rioux insiste sur l'importance de distinguer les véritables réfugiés des autres, c'est-à-dire des réfugiés économiques, qui, eux, méritent d'être repoussés aux frontières. Mais le désespoir humain n'engendre-t-il pas certaines obligations morales, qu'ils soient l'effet de menaces politiques ou économiques? C'est Véronica Ponce qui signe cet article le 15 juin 2018, qui est publié aujourd'hui. Réplique de Christian Rioux. Chère lectrice, vos propos sont malheureusement démentis par le fait que ce ne sont pas les plus miséreux qui quittent leur pays, ainsi que par les taux de croissance que connaît l'Afrique. Aujourd'hui, les famines naturelles y ont pratiquement disparu. Restent les guerres, évidemment, mais qui ne justifient pas ces migrations économiques largement motivées, non par la misère croissante, mais par l'attrait d'une richesse qui s'affiche aujourd'hui impunément sur les écrans du monde. En vous remerciant de votre lettre, Christian Rioux, correspondant du Devoir à Paris. Les djihadistes présumés du groupe nigérian Boko Haram ont utilisé des fillettes pour perpétrer des attentats suicides suivis d'attaques à la grenade qui ont fait au moins 31 morts dans le nord-est du Nigeria, indiqué un responsable local. Lors des deux attaques suicides à Damboa, dans l'état de Borno, dans la nuit de samedi à dimanche, 31 personnes ont été tuées, plusieurs autres blessées, a déclaré un membre d'une milice locale. Les attaques ont visé des personnes qui venaient de célébrer la fête de l'Aïd el-Fitr, qui marque la fin du Ramadan. Après le double attentat suicide, des djihadistes présumés ont visé la foule amassée sur le lieu des attaques avec des grenades, faisant davantage de victimes. Nicaragua, Managua, opposition et gouvernement au Nicaragua tentaient de maintenir le fragile fil du dialogue national qui doit reprendre lundi après de nouvelles violences qui portent à au moins 178 morts le bilan du mouvement de contestation anti-Ortega. Les deux parties se sont réunies samedi pour la deuxième journée consécutive, mais la rencontre a été assombrie par la mort de 8 personnes à Managua, dont 6 dans l'incendie de leur maison provoqué par des hommes armés. Les délégations ont décidé de reprendre leurs discussions lundi pour notamment examiner une proposition formulée par l'Église catholique qui joue le rôle de médiateur prévoyant d'organiser des élections générales anticipées en mars 2019, soit 2 ans avant l'échéance prévue.
Extrait de Safia Nolin qui, elle-même sur sa page Facebook, le dit, voici une nouvelle pièce déprimante, ça s'intitule Les Chemins, premier extrait de son prochain album à paraître l'automne prochain qui s'intitulera Dans le noir.
À la une du Journal de Montréal, déçus sont bonbons aux potes interdits vendus en magasin. Il attend depuis 30 ans. Tout ce que Vincent Dulude sait sur ses parents biologiques tient sur deux feuilles de papier comme des milliers d'autres Québécois adoptés. Il pourrait finalement connaître leur identité dans les prochains jours. La chronique d'Isabelle Huot, Santé, l'été glacé? Et la chronique d'Yvon Penneau, Le Canadien se contente de peu. Les routiers du Québec seront en grève aujourd'hui. L'enjeu est de taille sur le chantier du pont Champlain en raison de l'échéancier serré. Les grues immobiles depuis jeudi dernier sur le chantier de construction du nouveau pont Champlain à Montréal le seront encore aujourd'hui et la situation s'étendra à tous les chantiers de la province. Les grutiers veulent ainsi protester contre les récents changements des règles concernant leur métier entrés en vigueur le 14 mai. Ces règles permettent notamment aux travailleurs qui ne sont pas des grutiers de manœuvrer des camions flèches de 30 tonnes et moins. Elles élargissent aussi le recours à des travailleurs qui n'ont pas obtenu de diplôme d'études professionnelles de grutier. La Commission de la construction du Québec dit qu'elle mène une enquête au sujet de cette grève illégale. Des suçons aux potes interdits sont vendus à Sherbrooke. Leur fabricant tente pourtant d'obtenir une licence de producteur de cannabis. La boutique d'accessoires pour fumeurs n'importe quoi sur la rue King à Sherbrooke vend des sucettes contenant 50 et 100 mg de CBD, qui est une substance tirée du cannabis identifiée à la compagnie MYM Nutraceutical, je le prononce à la française, et sa marque Joshua Tree. Seuls les producteurs autorisés par Santé Canada peuvent vendre des huiles ou du cannabis séché contenant du CBD à des patients qui ont des prescriptions médicales. Mais la vente de produits comestibles demeure illégale, souligne l'agence fédérale. La propriétaire de la boutique a affirmé que les sucettes au CBD étaient vendues légalement parce qu'elles sont à base de chanvre. Il s'agit d'une variété de cannabis qui contient peu de THC. Or, Santé Canada et l'Alliance commerciale canadienne du chanvre nous confirment qu'il est aussi interdit de vendre des produits à base de chanvre qui contiennent du CBD. Même si le cannabis sera légalisé en 2018, les produits comestibles au cannabis ne le seront pas avant 2019. « L'ancien ministre de l'Environnement, Daniel Breton, annoncera aujourd'hui qu'il se porte candidat à l'investiture péquiste dans la circonscription de Saint-Hyacinthe, a appris le Journal de Montréal. C'est un retour au Parti québécois pour le militant écologiste de longue date, bien connu pour son engagement envers l'électrification des transports. En 2012, il avait été élu sous la bannière du Parti québécois dans la circonscription montréalaise de Sainte-Marie-Saint-Jacques. La première ministre, Pauline Marois, en avait fait son ministre de l'Environnement, mais il avait démissionné 2 mois après sa nomination à la suite de révélations sur son passé de mauvais payeur. Les médias avaient notamment révélé que M. Breton n'avait pas payé son loyer sur une période de 13 mois entre 2008 et 2009. Il était tout de même resté membre du caucus du PQ avant d'être battu à l'élection de 2014 par la solidaire Manon Massé. La SAC pourrait être en grève pour la Saint-Jean. Les fêtards devraient prévoir leurs achats en prévision du week-end de la fête nationale. Les employés de la SAC pourraient déclencher une grève de 6 jours à partir du 23 juin. Le syndicat des employés de magasins et de bureaux de la Société des alcools du Québec, affilié à la CSN, tient jusqu'à jeudi des votes de grève auprès de ses membres partout en province. Les résultats de l'ensemble des votes seront connus vendredi. Depuis quelques semaines, le nombre de contraventions liées au radar photo a explosé au Québec. Les automobilistes québécois ont reçu 3 fois plus de constats d'infraction le mois dernier qu'en avril. Selon des données du ministère de la Justice, le nombre de constats d'infraction liés au radar photo était supérieur d'environ 4 000 en mai par rapport au mois précédent. En comparaison, la hausse notée entre mars et avril 2018 représentait environ 1 000 constats. L'augmentation du mois dernier s'explique entre autres par l'utilisation de radars fixes installés à travers la province. Dans la grande région de Montréal, l'un des radars les plus efficaces est celui installé sur l'autoroute 15 à la hauteur de Mirabel. À lui seul, il a permis de donner 1 000 constats d'infraction de plus le mois dernier. Chez CAA Québec, on accueille positivement la hausse des constats d'infraction liés au radar photo. Photo un peu déprimante jusque sur le toit de la Terre. L'homme laisse sa trace, tente fluorescente, équipement d'escalade jeté, bouteille d'oxygène vide et même excréments. La neige jadis immaculée de l'Everest a perdu toute sa blancheur. En 2017, les alpinistes sur le versant népalais payés pour nettoyer les lieux ont ainsi rapporté près de 25 tonnes de déchets solides et 15 tonnes de déchets humains, selon le Sagarmatha Pollution Control Committee. Cette saison, des quantités encore plus grandes ont été redescendues, mais ne représentent toujours qu'une fraction de la pollution produite. Les défenseurs de l'environnement craignent aussi que la pollution de l'Everest n'affecte les cours d'eau de la vallée en contrebas. Une photo de Vincent Duluth, 58 ans, qui tient dans ses mains un des seuls documents contenant des informations sur ses parents biologiques. Il espère découvrir la vérité sur ses parents biologiques. Tout ce que ce Lavallois sait d'eux ne tient que sur 2 feuilles de papier. Un homme de Laval attend sous peu la nouvelle la plus importante de sa vie, savoir si ses parents biologiques sont toujours vivants. Des fois, je m'imagine croiser leur regard dans la rue, lâche Vincent Duluth, attablé devant une pile de papiers et de photos d'enfance. Grâce à la loi 113, entrée en vigueur samedi, M. Duluth pourrait connaître l'identité de ses parents biologiques, ou du moins, il pourra savoir s'ils sont encore en vie d'ici quelque temps. À l'origine, les personnes adoptées ne pouvaient accéder à ces informations, et ce, même si les parents biologiques étaient décédés ou simplement introuvables. Pour contourner la situation, les parents devaient consentir explicitement à ce que ces renseignements soient transmis. On évalue à près de 300 000 les personnes qui ont été confiées à l'adoption entre 1920 et 1970 au Québec. Mais le combat est loin d'être terminé pour le mouvement Retrouvailles. Avec la loi 113, plusieurs personnes auront les noms et le prénom de leurs parents biologiques, mais il y a des gens qui ne réussiront pas à avoir des informations et des frères et des sœurs qui ne pourront se retrouver facilement, explique Caroline Fortin, ajoutant que l'organisme est encore loin de disparaître. Il boycotte des produits américains, des Québécois dénoncent les agissements du président Trump et les sanctions commerciales. Je pense que d'acheter canadien, c'est bien la meilleure chose que l'on peut faire pour notre économie pour faire face à ce problème-là, avance Pierre Girard de Laval, qui évite d'acheter des produits américains. Le mouvement Buy Canadian, Boycott US Products ou Boycott USA sur les réseaux sociaux a pris de l'ampleur dans le reste du Canada depuis quelques jours et semble se transporter au Québec. Des Québécois ont décidé de réagir aux propos de Donald Trump qui s'en est pris au premier ministre Trudeau en le jugeant de malhonnête dans le cadre du G7 et à la guerre commerciale que livre le président américain en imposant des tarifs sur l'acier et l'aluminium canadiens. Certains veulent également protester contre l'attitude des États-Unis qui rend difficiles les négociations de l'accord de libre-échange nord-américain. Ce n'est pas encore clair si le mouvement prendra autant d'ampleur au chapitre du tourisme aux États-Unis. Mais déjà, des Québécois ont décidé d'annuler leurs vacances chez nos voisins en guise de protestation. C'est le cas d'Anne Gingras de Québec, qui n'ira pas pour la première fois en 12 ans à Myrtle Beach, en Caroline du Sud, en juillet prochain. Les tarifs sur l'acier et l'aluminium imposés au Canada ont vraiment été la goutte qui a fait déborder le vase. On a décidé que l'on n'allait pas lui donner de notre argent, insiste Mme Gingras, qui passera plutôt ses vacances à faire le tour de la côte nord.
On t'a fracturé le ventre, comme on brise des objets sans importance. Et depuis, tu te demandes pourquoi tu restes si plus rien n'a de sens. Mais moi, j'espère tellement que tu vas mieux. J'espère tellement que tu vas mieux. Donne-moi au moins un signe de vie. Oh tellement, j'espère tellement que tu vas mieux. Même si chaque soir, quand la nuit tombe, tu pars toute seule sans faire de bruit. J'ai cherché des solutions. Pense à mes questions. C'est toujours toi qu'on finira par faire payer. Mais moi, j'espère tellement que tu vas mieux. Même si c'est dur, même si c'est dur pour toi, juste de rester en vie. Oh tellement, j'espère tellement que tu vas mieux. Même si chaque soir, tu restes si plus rien n'a de sens. Mais moi, j'espère tellement que tu vas mieux. J'espère tellement que tu vas mieux. Donne-moi au moins un signe de vie. Oh tellement, j'espère tellement que tu vas mieux. Même si chaque soir, quand la nuit tombe, tu pars toute seule sans faire de bruit.
L'auteur, compositeur, interprète Ariane Zita et ce nouvel extrait, J'espère que tu vas mieux.
Alors, dans le droit, pour amorcer cette tournée des journaux régionaux, Sébastien Pierre-Rose, la première semaine de Doug Ford. Officiellement, il faudra attendre le 29 juin pour que Doug Ford devienne le 26e premier ministre de l'Ontario. En attendant, le chef du Parti progressiste conservateur n'a pas voulu perdre de temps. Objectif pour lui, marquer d'entrée les esprits. Sur l'épineux dossier de la renégociation de l'accord de libre-échange nord-américain, le premier ministre désigné a même fait plutôt bonne figure jeudi dernier. Aux côtés de la ministre canadienne des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, M. Ford a apporté son soutien au gouvernement fédéral. Le chef du parti PC n'avait pas hésité la veille à s'asseoir avec des représentants des industries de l'acier et de l'auto. Au milieu de ces gages de bonne volonté, M. Ford a tout de même officialisé le retrait de l'Ontario du marché du carbone. Un revirement attendu, mais assez fracassant pour ce qui reste l'un des principaux héritages du gouvernement Wynne. Toujours sur le dossier de l'environnement, Doug Ford promet de ne pas se laisser imposer par le gouvernement fédéral la taxe sur le carbone. Fidèle à son aversion pour les impôts, le premier ministre désigné promet ainsi plus d'argent dans les poches des contribuables. En réalité, il y a peu de chances que cette première grosse mesure du gouvernement élu soit contestée. La campagne électorale a démontré l'intérêt encore bien trop faible des Ontariens pour les questions environnementales. L'idée que cette taxe comprend bel et bien un aspect redistributif pour enrayer la dépense du charbon et du pétrole reste assez méconnue. En revanche, Doug Ford devrait connaître un automne plutôt animé. Ses autres promesses de campagne, comme rouvrir le débat sur le curriculum d'éducation sexuelle ou encore s'opposer au salaire minimum à 15 $ l'heure, pourraient mettre le feu aux poudres. Son refus d'accorder ce 15 $ l'heure en janvier 2019 a d'ailleurs provoqué une première manifestation devant le ministère du Travail cette fin de semaine. Dans le Nouvelliste, Catherine Bergeron, la librairie Poirier achète Perrault Libraire. Moi, je passe la POC. On ne peut pas tout accumuler ou tout cumuler et tout bien réussir. Il faut faire des choix. Les propriétaires de la librairie Poirier m'ont dit qu'ils garderaient une succursale à Shawinigan, lance Brian Perrault, propriétaire de Perrault Libraire. En effet, l'entreprise vient d'officialiser la vente de sa librairie à la société Saint-Jean-Baptiste, qui est propriétaire de la librairie Poirier de Trois-Rivières. Depuis près de 5 ans, Perrault Libraire avait pignon sur rue au centre-ville de Shawinigan. À l'époque, il n'y avait pas de librairie à Shawinigan et nous désirions offrir ce service. C'est ma fille Gabrielle qui s'en occupait. Lorsque la librairie Poirier nous a approchés, j'en ai discuté avec elle. Je lui ai demandé « qu'est-ce qui te rend heureuse dans la vie », raconte M. Perrault. Mère de famille, éditrice et responsable de la librairie, la fille de Brian Perrault désirait se consacrer à l'édition. Les récents succès en édition de Perrault Éditeur, notamment dans le développement international, télévisuel, scénique et cinématographique de la série Amos d'Aragon, nous ont poussés à recentrer notre travail uniquement sur l'édition et la vente de droits à l'étranger des titres. Ce n'est pas une décision malheureuse, il fallait seulement faire des choix, souligne M. Perrault. Il ajoute que la librairie Poirier a confirmé son intention d'installer un point de vente à Shawinigan. C'est avec bonheur que nous cédons notre place à une entreprise dont l'expertise dans le domaine du livre n'est plus à faire. Du 19 au 30 juin, Perrault Libraire liquidera son inventaire à 40 % de rabais dans ses locaux de la Place du Marché au centre-ville de Shawinigan. Les amateurs de livres pourront donc faire quelques belles trouvailles avant que la librairie change de main. Dans le soleil, le 1er octobre, les enfants pourront aussi voter. Patricia Cloutier. Pour la première fois, lors d'une élection générale, tous les enfants du Québec seront invités à se rendre dans les bureaux de vote le 1er octobre pour déposer, eux aussi, leur bulletin dans l'urne. L'objectif, ancrer ce geste le plus tôt possible dans la vie des futurs électeurs. Non, le gouvernement n'a pas changé l'âge légal pour voter. Élections Québec, le nouveau nom du directeur général des élections, cherche plutôt à donner un coup de barre afin de tirer vers le haut et le taux de participation chez les jeunes qui baisse de façon constante. C'est un investissement à long terme, oui, mais on croit que c'est un important investissement social, souligne Julie Saint-Arnaud-Drolette, porte-parole pour Élections Québec. Les chercheurs s'entendent pour dire que le sens de la démocratie et de la participation politique, ça s'apprend. Cet apprentissage, qui commence tôt dans la vie d'un enfant, est influencé par la famille, l'école et les amis. Élections Québec a voulu faire sa part et susciter des questionnements chez les enfants. Le petit bureau de vote est un bureau spécial installé à proximité de celui des adultes. Derrière l'isoloir, on ne demande pas aux enfants de choisir un candidat ou de comprendre la vision politique d'un parti. On leur demande plutôt de répondre à une question comme « Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? » Et l'enfant coche l'un des choix suivants. A. Exprimer tes idées. B. Être différent. C. Te faire respecter. Ou D. Aider les autres. Il n'y a pas de « et » avec toutes ces réponses. Bon, ça, c'est moi qui l'ai ajouté. C'est la question à laquelle 1400 enfants ont répondu lors des élections partielles de Gouin à Montréal et de Louis Hébert à Québec en 2017. La majorité a choisi la réponse D, aider les autres, comme quoi les petits peuvent avoir un côté altruiste. Aux dernières élections municipales, la Ville de Montréal a aussi installé les petits bureaux de vote d'Élections Québec. Environ 3000 enfants s'y sont rendus et devaient choisir ce qui était le plus important pour eux dans une ville. La majorité a opté pour les arénas, les piscines et les parcs au détriment des bibliothèques et du métro. Les petits qui ne savent pas encore lire peuvent demander de l'aide à un adulte ou aller barbouiller tout seul leur bulletin de vote. À la fin, ils ont droit à un tatouage temporaire sur lequel il est inscrit « J'ai voté ». Voler plus accessible qu'on ne le croit, c'est Camille Dauphinet-Pelletier dans la Tribune. Quand Réal Paquette était petit, qu'il allait glisser en traîneau avec ses amis, il s'imaginait non pas qu'il descendait une pente, mais bien qu'il s'envolait vers le ciel. Le petit Réal est devenu grand et a réalisé son rêve. Il possède aujourd'hui un avion et une licence de pilote et est le président des Faucheurs de Marguerite, dont le rassemblement annuel se tenait en fin de semaine à l'aéroport de Sherbrooke. L'une des missions de cet événement est de faire réaliser aux intéressés que posséder un avion, c'est un projet plus facile à réaliser qu'on aurait tendance à le croire. Un avion, c'est accessible pour à peu près n'importe qui. Il y en a de tous les prix. Il s'agit seulement de prioriser, de s'investir dans le projet, soutient M. Paquette. Il y a d'abord la licence d'aviation à passer, puis on peut penser à faire l'acquisition d'un avion selon M. Paquette. Un bolide en ordre et prêt à voler peut se vendre autour de 20 000 ou de 25 000 $. Un avion, c'est le prix d'une grosse moto. Moi, par exemple, je ne conduis pas des voitures de l'année, je priorise mon avion. Les voitures, c'est secondaire pour moi. Je réalise mon rêve qui a toujours été de voler. Le rassemblement des faucheurs est une belle occasion pour les curieux de voir des avions de très près et de poser des questions à leurs pilotes. D'habitude, le public n'a pas le droit de traverser les murs de l'aéroport. Nous, on leur permet d'approcher les avions. On peut comparer ça à une exposition de voitures antiques, donne en exemple M. Paquette. Et évidemment, il s'agit d'un important rendez-vous pour les passionnés d'aviation qui ont répondu présents lors de cette 24e édition de l'événement. Le public général a peut-être un petit peu moins participé cette année car on n'a pas le F-18 qui attirait beaucoup de gens, explique M. Paquette. Son pilote Denis Beaulieu provenait de la région de Sherbrooke et quand il arrivait le vendredi en passant au-dessus de la ville, il faisait du bruit, il disait aux gens « On est à l'aéroport. » Merci d'écouter le quotidien des quotidiens à Canal M, la radio de Vues et Voix. C'est Hélène Denis avec vous jusqu'à 11h30. À venir, les actualités culturelles et les sujets libres.